Voici l'épreuve de compréhension orale français programme long, automne 2012. Elle comprend 6 parties. Vous aurez des instructions avant chacune des parties. Écoutez bien les documents sonores. Vos réponses devront se baser sur les documents entendus. L'épreuve commence. Vous entendrez la première partie de l'épreuve d'abord en entier, puis en plusieurs sections. La voici en entier.
Les Britanniques établis en France sont très nombreux à faire leurs achats dans les supermarchés de leur pays d'origine. Nous sommes allés interviewer le directeur de Sterling Shopping, une grande société de livraison du Royaume-Uni. Monsieur Wilson, que fait votre société exactement ?
Nos camions circulent régulièrement entre le Royaume-Uni et la France. Il y a des milliers de Britanniques qui vivent en France et qui font leurs courses par l'intermédiaire d'Internet auprès des supermarchés britanniques. Le rôle de notre société, c'est donc de livrer ces commandes à domicile.
De quelle sorte de produits s'agit-il ?
Surtout des produits alimentaires, et pas seulement britanniques. Cela peut paraître surprenant, mais les Anglais qui habitent en France font venir d'Angleterre leurs croissants, leurs baguettes et leurs bouteilles de vin. Des produits qu'il ferait quand même mieux d'acheter sur place. Nous, quand on voit ça, ça nous fait rigoler. Mais nous faisons bien sûr ce que nos clients nous demandent. Notre clientèle n'est pas constituée uniquement de Britanniques. Nous avons aussi quelques clients français qui profitent de notre activité pour s'approvisionner en curry, tacos et autres produits des quatre coins du monde qu'ils ne trouvent pas facilement en France.
Nous avons interviewé aussi Madame Nikki Bundy, qui habite avec sa famille près de Périgueux depuis 4 ans. Madame Bundy, comment faites-vous vos courses ?
Je dépense environ 70% de mon budget alimentation chez Asda, au Royaume-Uni. Malgré la commission, cela nous revient tellement moins cher. La nourriture française est bonne et souvent écologique, mais on sort parfois du supermarché avec 2 petits sacs de rien du tout en ayant dépensé 100 euros. J'essaye d'acheter mes fruits et légumes sur place, mais pour le reste, je me fournis chez Asda.
Étudiez la question 1.
Les Britanniques établis en France sont très nombreux à faire leurs achats dans les supermarchés de leur pays d'origine. Nous sommes allés interviewer le directeur de Sterling Shopping, une grande société de livraison du Royaume-Uni. Monsieur Wilson, que fait votre société exactement ?
Nos camions circulent régulièrement entre le Royaume-Uni et la France. Il y a des milliers de Britanniques qui vivent en France et qui font leurs courses par l'intermédiaire d'Internet auprès des supermarchés britanniques. Le rôle de notre société, c'est donc de livrer ses commandes à domicile.
Répondez à la question 1 et étudiez 2 et 3.
De quelle sorte de produits s'agit-il ?
Surtout des produits alimentaires, et pas seulement britanniques. Cela peut paraître surprenant, mais les Anglais qui habitent en France font venir d'Angleterre leurs croissants, leurs baguettes et leurs bouteilles de vin. Des produits qu'il ferait quand même mieux d'acheter sur place. Nous, quand on voit ça, ça nous fait rigoler. Mais nous faisons bien sûr ce que nos clients nous demandent. Notre clientèle n'est pas constituée uniquement de Britanniques. Nous avons aussi quelques clients français qui profitent de notre activité pour s'approvisionner en curry, tacos et autres produits des quatre coins du monde qu'ils ne trouvent pas facilement en France.
Répondez aux questions 2 et 3 et étudiez la question 4.
Nous avons interviewé aussi Madame Nikki Bundy, qui habite avec sa famille près de Périgueux depuis 4 ans. Madame Bundy, comment faites-vous vos courses ?
Je dépense environ 70% de mon budget alimentation chez Asda, au Royaume-Uni. Malgré la commission, cela nous revient tellement moins cher. La nourriture française est bonne et souvent écologique, mais on sort parfois du supermarché avec 2 petits sacs de rien du tout en ayant dépensé 100 euros. J'essaye d'acheter mes fruits et légumes sur place, mais pour le reste, je me fournis chez Asda.
Répondez à la question 4. La deuxième partie de l'épreuve est le récit d'un homme, Olivier. Vous l'entendrez d'abord en entier, puis en plusieurs sections.
En général, dans un couple, c'est l'homme qui gagne le plus d'argent. Mais les situations contraires existent. Écoutons Olivier, 38 ans, qui est enseignant et qui a des revenus annuels de 25 000 euros, alors que Camille, son ex-femme, qui est agent d'acteur, gagne de 90 000 euros à 120 000 euros par an.
J'avais ma propre agence de publicité qui m'offrait une vie plutôt agréable. Camille et moi, on s'est rencontrés parce qu'elle m'avait demandé de monter une campagne de pub. Mais 1 an après le début de notre histoire, j'ai commencé à me poser des questions sur mes motivations professionnelles. Je voulais donner plus de sens à ma vie, je voulais être utile aux autres. J'ai donc repris des études et je suis devenu enseignant pour aider des jeunes à se donner un avenir. Ma femme a été parfaite, elle m'a soutenu. Elle m'a dit « Écoute, je gagne assez d'argent pour 2 ». Elle a insisté pour que nous ayons un seul compte bancaire, même si 80% de l'argent venait d'elle. Tout a très bien marché, c'était vraiment super. Mais peu à peu, ça a commencé à se dégrader. Si j'avais envie d'une belle paire de chaussures ou d'un nouveau jean, ça me dérangeait de les acheter avec son argent. Je me sentais mal. Même chose avec les bouquets de fleurs. Je n'arrivais plus à lui en offrir. Ma femme vivait beaucoup à l'extérieur, théâtre, boulot, voyage. Au début, je la suivais, mais peu à peu, j'ai cessé de l'accompagner. Un jour, ça a explosé. Elle m'a dit que je ne faisais rien à la maison, qu'elle était obligée de tout gérer, alors qu'elle travaillait beaucoup plus que moi. Elle a exigé que je m'occupe des courses, de la vaisselle, du ménage. Je n'ai pas supporté. La dispute a duré 1 quart d'heure. Tout est sorti. En fait, elle était devenue l'homme du couple. Elle m'avait pris mon rôle. Ça s'est terminé comme ça. Elle est partie en voyage et quand elle est revenue, j'avais déménagé. On ne s'est jamais revu. Aujourd'hui, je partage un appartement avec un ami. C'est bien plus simple.
Étudiez les questions 5 et 6.
En général, dans un couple, c'est l'homme qui gagne le plus d'argent. Mais les situations contraires existent. Écoutons Olivier, 38 ans, qui est enseignant et qui a des revenus annuels de 25 000 euros, alors que Camille, son ex-femme, qui est agent d'acteur, gagne de 90 000 euros à 120 000 euros par an.
J'avais ma propre agence de publicité qui m'offrait une vie plutôt agréable. Camille et moi, on s'est rencontrés parce qu'elle m'avait demandé de monter une campagne de pub. Mais 1 an après le début de notre histoire, j'ai commencé à me poser des questions sur mes motivations professionnelles. Je voulais donner plus de sens à ma vie, je voulais être utile aux autres. J'ai donc repris des études et je suis devenu enseignant pour aider des jeunes à se donner un avenir.
Répondez aux questions 5 et 6 et étudiez 7 et 8.
Ma femme a été parfaite, elle m'a soutenu. Elle m'a dit « Écoute, je gagne assez d'argent pour deux ». Elle a insisté pour que nous ayons un seul compte bancaire, même si 80% de l'argent venait d'elle. Tout a très bien marché, c'était vraiment super. Mais peu à peu, ça a commencé à se dégrader. Si j'avais envie d'une belle paire de chaussures ou d'un nouveau jean, ça me dérangeait de les acheter avec son argent. Je me sentais mal. Même chose avec les bouquets de fleurs. Je n'arrivais plus à lui en offrir.
Répondez aux questions 7 et 8 et étudiez 9 et 10.
Ma femme vivait beaucoup à l'extérieur, théâtre, boulot, voyage. Au début, je la suivais, mais peu à peu, j'ai cessé de l'accompagner. Un jour, ça a explosé. Elle m'a dit que je ne faisais rien à la maison, qu'elle était obligée de tout gérer, alors qu'elle travaillait beaucoup plus que moi. Elle a exigé que je m'occupe des courses, de la vaisselle, du ménage. Je n'ai pas supporté. La dispute a duré un quart d'heure. Tout est sorti. En fait, elle était devenue l'homme du couple. Elle m'avait pris mon rôle. Ça s'est terminé comme ça. Elle est partie en voyage et quand elle est revenue, j'avais déménagé. On ne s'est jamais revus. Aujourd'hui, je partage un appartement avec un ami. C'est bien plus simple.
Répondez aux questions 9 et 10. Dans la troisième partie de l'épreuve, Philippe Stark, célèbre créateur, designer et architecte français, nous parle de ce qu'est la maison aujourd'hui. Vous entendrez l'entretien d'abord en entier, puis en plusieurs sections. Le voici en entier.
Philippe Stark, il semblerait aujourd'hui que la maison soit synonyme de bonheur. Vous êtes d'accord ?
Je ne pense pas qu'une maison puisse apporter le bonheur. Mais une maison chargée de valeurs humaines et d'intelligence peut sûrement y contribuer. Par contre, une maison où la seule valeur est le pouvoir de l'argent détruira à coup sûr les personnes qui y vivent. Le seul élément qui permet de se plaire dans une maison, c'est d'être avec la personne que l'on aime. La maison est avant tout un toit pour mettre un amour à l'abri du froid, de la pluie, de la neige.
En tant qu'architecte, comment concevez-vous l'arrangement des pièces dans une maison ?
Au cours de ma carrière, j'ai testé beaucoup de plans différents. Vous savez, les maisons les plus modestes, les plus petites, sont toujours les plus heureuses. La maison doit être organisée comme un village. La pièce centrale correspond à la place du village. Et les chambres qui l'entourent correspondent aux maisons des villageois, souvent membres de la famille ou amis. Il faut aussi une fenêtre donnant sur un élément de nature. Le soleil doit pouvoir pénétrer dans la maison. La cuisine a évidemment un rôle essentiel. Elle représente le partage et l'amour. Voilà les conditions pour avoir une qualité de vie satisfaisante.
Selon vous, qu'est-ce qui change dans les intérieurs ?
Les formes changent, bien sûr, mais les fonctions sont aussi en train d'évoluer. Aujourd'hui, on a tendance à réunir la cuisine, la salle à manger et le salon. Je ne crois plus du tout, par exemple, que le canapé et son inséparable table basse occupent une fonction essentielle dans une maison. On préfère avoir des chaises confortables autour de la table à manger. On dîne à table et on y reste longtemps avec la famille ou des amis. Faire de la décoration intérieure ne m'intéresse pas. Elle se fait toute seule. Elle est composée des cadeaux des amis, des souvenirs des voyages et de tous les petits objets qu'on accumule au fil des années.
Étudiez la question 11.
Philippe Stark, il semblerait aujourd'hui que la maison soit synonyme de bonheur. Vous êtes d'accord ?
Je ne pense pas qu'une maison puisse apporter le bonheur. Mais une maison chargée de valeurs humaines et d'intelligence peut sûrement y contribuer. Par contre, une maison où la seule valeur est le pouvoir de l'argent détruira à coup sûr les personnes qui y vivent. Le seul élément qui permet de se plaire dans une maison, c'est d'être avec la personne que l'on aime. La maison est avant tout un toit pour mettre un amour à l'abri du froid, de la pluie, de la neige.
Répondez à la question 11 et étudiez 12 et 13.
En tant qu'architecte, comment concevez-vous l'arrangement des pièces dans une maison ?
Au cours de ma carrière, j'ai testé beaucoup de plans différents. Vous savez, les maisons les plus modestes, les plus petites, sont toujours les plus heureuses. La maison doit être organisée comme un village. La pièce centrale correspond à la place du village. Et les chambres qui l'entourent correspondent aux maisons des villageois, souvent membres de la famille ou amis. Il faut aussi une fenêtre donnant sur un élément de nature. Le soleil doit pouvoir pénétrer dans la maison. La cuisine a évidemment un rôle essentiel. Elle représente le partage et l'amour. Voilà les conditions pour avoir une qualité de vie satisfaisante.
Répondez aux questions 12 et 13 et étudiez 14 et 15.
Selon vous, qu'est-ce qui change dans les intérieurs ?
Les formes changent, bien sûr, mais les fonctions sont aussi en train d'évoluer. Aujourd'hui, on a tendance à réunir la cuisine, la salle à manger et le salon. Je ne crois plus du tout, par exemple, que le canapé et son inséparable table basse occupent une fonction essentielle dans une maison. On préfère avoir des chaises confortables autour de la table à manger. On dîne à table et on y reste longtemps avec la famille ou des amis. Faire de la décoration intérieure ne m'intéresse pas. Elle se fait toute seule. Elle est composée des cadeaux des amis, des souvenirs des voyages et de tous les petits objets qu'on accumule au fil des années.
Répondez aux questions 14 et 15. Dans la quatrième partie de l'épreuve, vous entendrez deux petites nouvelles, chacune deux fois de suite. Étudiez la question 16.
En entrant dans la maison de ce petit homme de 72 ans, le cambrioleur pensait peut-être avoir trouvé la victime idéale. Mais dans sa jeunesse, le petit vieux avait été champion de boxe. Lorsque le cambrioleur l'a menacé de son couteau, l'ancien boxeur a retrouvé immédiatement ses réflexes d'autrefois. Et pif paf, après deux droites bien placées, le malfaiteur de 24 ans s'est retrouvé par terre, évanoui. Quand la police est arrivée, il n'avait toujours pas repris connaissance.
Deuxième écoute.
En entrant dans la maison de ce petit homme de 72 ans, le cambrioleur pensait peut-être avoir trouvé la victime idéale. Mais dans sa jeunesse, le petit vieux avait été champion de boxe. Lorsque le cambrioleur l'a menacé de son couteau, l'ancien boxeur a retrouvé immédiatement ses réflexes d'autrefois. Et pif paf, après deux droites bien placées, le malfaiteur de 24 ans s'est retrouvé par terre, évanoui. Quand la police est arrivée, il n'avait toujours pas repris connaissance.
Répondez à la question 16 et étudiez la question 17.
Si vous en avez assez de remplir les poubelles de votre bureau avec quantité de documents à peine sortis de l'imprimante, voici la solution. L'industriel japonais Nakabayashi a mis au point une machine qui transforme ses feuilles de papier jeté en papier hygiénique. Il suffit d'une heure pour que cette machine, de la taille d'une grosse armoire, produise 3 rouleaux de papier toilette à partir de 10 kilos de documents inutiles.
Deuxième écoute.
Si vous en avez assez de remplir les poubelles de votre bureau avec quantité de documents à peine sortis de l'imprimante, voici la solution. L'industriel japonais Nakabayashi a mis au point une machine qui transforme ses feuilles de papier jeté en papier hygiénique. Il suffit d'une heure pour que cette machine, de la taille d'une grosse armoire, produise 3 rouleaux de papier toilette à partir de 10 kilos de documents inutiles.
Répondez à la question 17. Dans la cinquième partie de l'épreuve, vous entendrez 8 petits dialogues entre Marc et Sophie. Vous entendrez chaque dialogue une seule fois et vous devrez choisir la réplique suivante. Étudiez la question 18.
Tiens, un vendeur de glace. Allez, Marc, je t'en offre une. Quel parfum tu préfères ? Vanille ou chocolat ?
Chocolat, évidemment.
Bah, pourquoi évidemment ?
Répondez à la question 18 et étudiez 19.
Où es-tu allé en vacances cette année, Marc ?
Je suis parti en Espagne avec Sylvie.
Ah bon ? Je croyais que vous ne vous voyez plus.
Répondez à la question 19 et étudiez 20.
Dis Sophie, j'ai un gros problème. Tu crois que tu pourrais m'aider ?
Je ne sais pas. C'est quoi ton problème ?
Je dois beaucoup d'argent à Valérie.
Beaucoup, beaucoup. Tu lui dois combien alors ?
Répondez à la question 20 et étudiez 21.
C'est vrai que tu vas déménager, Marc ?
Ah oui, j'en peux plus de ce minuscule appartement.
Minuscule ? Faut pas exagérer quand même, t'as vu le mien. Tu dois bien avoir une autre raison. Qu'est-ce que tu lui reproches vraiment à cet appartement ?
Répondez à la question 21 et étudiez 22.
Laurent m'a dit que tu jouais dans un groupe.
Oui, j'ai commencé la semaine dernière. On s'est déjà réunis 3 fois. Ça se passe vraiment bien. C'est super sympa.
Tu joues de quoi ?
Répondez à la question 22 et étudiez 23.
Pourquoi tu n'es pas venue à l'anniversaire de Laurent ?
Oh, j'en ai marre des fêtes. On voit toujours les mêmes personnes, on entend toujours les mêmes histoires.
Mais, Sophie, t'as un problème ?
Répondez à la question 23 et étudiez 24.
On est encore loin. J'ai mal aux pieds.
Mais je t'avais bien dit de mettre d'autres chaussures.
Oui, mais je croyais qu'on y allait en voiture, moi.
Répondez à la question 24 et étudiez 25.
Hé hey Sophie, tu te souviens de mon projet italien ?
Oui, bien sûr, le projet avec Laurent. Alors, c'en est où ?
Eh ben, je vais travailler à Rome. Ça a marché, je pars demain.
Répondez à la question 25. La dernière partie de l'épreuve est un récit. Vous l'entendrez d'abord en entier, puis en 5 sections. Écrivez vos réponses sur la face A de la feuille réponse.
Un événement culturel de grande importance a eu lieu le 28 décembre 1895 à Paris. En effet, c'est ce jour-là que les frères Auguste et Louis Lumière, deux ingénieurs français, ont montré des films à l'aide d'un appareil qu'ils avaient mis au point. Il ne s'agissait pourtant pas de la toute première projection cinématographique. La nouveauté était ailleurs. D'une part, c'était la première projection publique d'un film, et d'autre part, c'était payant. Les frères Lumière avaient ainsi inventé le spectacle cinématographique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les premiers films des Lumières présentent des scènes de la vie quotidienne. Un des plus marquants montre un train qui arrive à la gare de la petite ville de La Ciotat. L'arrivée de ce train paraissait tellement réaliste qu'elle a provoqué une réaction de panique chez les spectateurs qui avaient l'impression que le train sortait de l'écran et allait les écraser. Il faut se souvenir que pour la plupart d'entre eux, c'était la première expérience cinématographique. Auguste et Louis ont passé pratiquement toute leur vie à Lyon. La famille Lumière est arrivée dans cette ville en 1870 et s'est installée dans le quartier de Montplaisir, où le père a fait construire une usine de papier et plaques photographiques. Les deux frères ont suivi des études techniques avant de reprendre l'entreprise fondée par leur père et de se consacrer au domaine de la photographie et du cinéma. Aujourd'hui, la Villa Lumière, ancienne maison familiale, est devenue un musée qui rend hommage à la famille Lumière en présentant des portraits et les inventions des deux frères. Dans une autre partie du musée est exposée une grande collection d'objets liés à l'histoire du cinéma. En plus du musée, au troisième étage de la maison, se trouve une bibliothèque consacrée au cinéma. Dans une autre partie de la propriété, une salle de projection propose un programme qui permet de voir les grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma, tels que Le journal d'une femme de chambre de Louis Buñuel ou La dame de Shanghai d'Orson Welles. Autant dire que Montplaisir est devenu le quartier général des cinéphiles.
Étudiez la question A.
Un événement culturel de grande importance a eu lieu le 28 décembre 1895 à Paris. En effet, c'est ce jour-là que les frères Auguste et Louis Lumière, deux ingénieurs français, ont montré des films à l'aide d'un appareil qu'ils avaient mis au point. Il ne s'agissait pourtant pas de la toute première projection cinématographique. La nouveauté était ailleurs. D'une part, c'était la première projection publique d'un film, et d'autre part, c'était payant. Les frères Lumière avaient ainsi inventé le spectacle cinématographique tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Répondez à la question A et étudiez la question B.
Les premiers films des Lumières présentent des scènes de la vie quotidienne. Un des plus marquants montre un train qui arrive à la gare de la petite ville de La Ciotat. L'arrivée de ce train paraissait tellement réaliste qu'elle a provoqué une réaction de panique chez les spectateurs qui avaient l'impression que le train sortait de l'écran et allait les écraser. Il faut se souvenir que pour la plupart d'entre eux, c'était la première expérience cinématographique.
Répondez à la question B et étudiez la question C.
Auguste et Louis ont passé pratiquement toute leur vie à Lyon. La famille Lumière est arrivée dans cette ville en 1870 et s'est installée dans le quartier de Montplaisir, où le père a fait construire une usine de papier et plaques photographiques. Les deux frères ont suivi des études techniques avant de reprendre l'entreprise fondée par leur père et de se consacrer au domaine de la photographie et du cinéma.
Répondez à la question C et étudiez la question D.
Aujourd'hui, la Villa Lumière, ancienne maison familiale, est devenue un musée qui rend hommage à la famille Lumière en présentant des portraits et les inventions des deux frères. Dans une autre partie du musée est exposée une grande collection d'objets liés à l'histoire du cinéma. En plus du musée, au troisième étage de la maison, se trouve une bibliothèque consacrée au cinéma.
Répondez à la question D et étudiez la question E.
Dans une autre partie de la propriété, une salle de projection propose un programme qui permet de voir les grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma, tels que Le journal d'une femme de chambre de Louis Buñuel ou La dame de Shanghai d'Orson Welles. Autant dire que Montplaisir est devenu le quartier général des cinéphiles.
Répondez à la question E. Nous voici à la fin de l'épreuve. Vous avez encore 8 minutes pour porter vos réponses sur le formulaire à lecture optique et pour revoir vos réponses écrites sur la feuille réponse. N'oubliez pas les renseignements qu'on vous demande. Merci.